ou c'est le bon? Amis trésistes du soir, bonsoir. Nous voilà ce soir à Pia, un fief trésiste au Café des Sports chez Pascal Fage, donc ancien international de rugby à 13 et capitaine de Pia. À mes côtés également Guy Laforgue, membre exécutif de la Fédération française de rugby à 13, que l'on présente aussi en tant que joueur, puisque ça a été un grand monsieur de la discipline, capitaine 13 catalan pendant près de 10 ans. De l'équipe de France également, du Barcarès en suivant, de Palo, donc une figure très connue de notre sport. Jean-Marie Bousquet, le président de Saint-Cyprien, de l'amicale, de la Peña de Saint-Cyprien. À ses côtés, Alain Forge, qui vient pour la deuxième fois, qui est également impliqué au sein du staff des Dragons catalans. Voilà. René Montala, le papa du forum, qui est présent depuis la première heure, évidemment, puisque c'est vraiment lui qui a créé ce forum Rugby 13. Louis Bonnery, que l'on ne présente plus, est-ce que ça vaut la peine de le présenter à nouveau? Consultant Orange, ancien international, entraîneur de l'équipe de France, international, ancien joueur de Limoux, ailier. Voilà, on dresse le portrait assez bref. Olivier Gondran, des Dragons de la Tête, qui est le président également. Et puis ce soir, on a le privilège d'avoir deux joueurs à nos côtés. Deux joueurs qui ne sont pas en grande forme, puisqu'ils ne seront pas là, malheureusement, samedi prochain. Il s'agit d'Olivier Lima. Bonsoir, Olivier. Le deuxième ligne des Dragons. Et puis l'autre deuxième ligne, Jamel Fakir, qui lui aussi a une contracture à la cuisse. Et on n'applaudit pas, ils ne seront pas là samedi. Donc ça vaut pas la peine qu'on applaudisse. Voilà.
Tu es dur.
On sait jamais avec un miracle. Bon, eh bien, écoutez, on va parler d'un sujet qui fâche, puisque pour l'instant, eh bien, après 10 rencontres, le bilan comptable est une nouvelle fois maigre, donc 8 défaites, 2 victoires. On va s'adresser aux joueurs de suite. Quel bilan tirez-vous après ces 10 journées de compétition, Olivier?
Mais c'est un début qui, encore une fois, comme l'année dernière, assez dur. La mayonnaise qui n'a pas pris avec l'équipe. Et puis bon, mais c'est vrai que le début tout le temps catastrophique qu'on fait, ça ne nous met pas dans les meilleurs cas, quoi. Donc c'est embêtant, ni au point de vue moral. Et après, il y a les blessures aussi qui suivent, les différentes décisions. Ça met un gros coup au moral, quoi. Donc c'est vrai que c'est dur à repartir, mais bon. Encore une fois, on lâche rien parce que bon, les playoffs ne sont pas encore joués. Donc jusqu'à ce qu'il y ait moyen de faire les playoffs, on lâchera rien, quoi.
Jamel, c'est aussi ton analyse, je suppose, ces problèmes de blessure, cette récurrence, malheureusement.
Oui, c'est vrai que cette année, donc, on n'échappe pas aux blessures de beaucoup de joueurs, surtout des joueurs, je veux dire, titulaires importants. Donc, je veux dire, pour certains joueurs font le bonheur des autres, je veux dire, des jeunes joueurs de UTC. Donc, c'est vrai que cette année, je crois que c'est la première année où on voit autant de jeunes joueurs comme Andrew Bentley ou Michael Simon, Martin, William, faire leurs preuves, comme Vacari aussi, qui a été très bien lundi dernier. Donc, voilà, je veux dire, pour les malheurs des autres, ça fait le bonheur de certains. Donc, après, oui, c'est vrai qu'on sort après 10 journées à 8 défaites. C'est un peu triste, donc, mais comme l'a dit Olivier, je veux dire, on va rien lâcher du moment qu'on n'a pas fini la saison, quoi.
Alors, qu'est-ce qui se passe dans vos têtes, justement, quand il y a malheureusement cette fréquence de défaites? Comment ça se passe, là, notamment contre Leeds? Qu'est-ce qui se passe quand l'arbitre siffle à la fin du match, que vous passez près de la victoire? Comment tu te sens en ce moment-là, Jamel?
Je veux dire, bon, mais moi, ça a été un peu... j'ai eu de la malchance parce que j'ai quitté... le match au bout de la fin de la première mi-temps. Donc c'est vrai que ça a été très regrettable parce qu'on a je veux dire, on a passé à côté de 20 premières minutes inexistantes. Je veux dire, on n'était pas du tout là, il n'y avait pas de cohésion entre les joueurs. En deuxième mi-temps, je veux dire, ça a été une autre équipe. Je ne sais pas si ça a été le discours des entraîneurs qui a fait qu'on a tous relevé la tête, mais... je veux dire, on a montré qu'avec l'équipe qu'on avait, on pouvait, je veux dire, battre Leeds. Et c'est vrai qu'au sifflet final, on était vraiment, vraiment déçus, quoi. On était à un doigt de prendre cette victoire.
Louis, donc, pour revenir sur cette défaite de lundi soir à Aimé Giral, est-ce qu'on peut nourrir des regrets au vu de la deuxième mi-temps?
Moi, ce n'est pas des regrets que j'ai parce que je pense que je suis parti du stade, comme beaucoup, satisfait. C'est paradoxal ce que je vais dire, mais je pense qu'il y a très longtemps qu'on n'avait pas connu cette ambiance, parce que tout simplement on a senti que le mal chronique que traînaient les Dragons depuis plusieurs mois avait peut-être disparu. Et que, bon, comme vient de dire Jamal, le fait que d'avoir été obligé d'incorporer des jeunes dans cette équipe a donné peut-être à libérer le club d'un passé avec lequel il ne voulait plus rien avoir. Et même quelle que soit la saison, je pense que le match de Leeds aura été un tournant dans la saison de l'histoire des Dragons, parce que cette équipe qui finalement traînait une sorte d'ennui s'est retrouvée tout d'un coup en plein dynamisme. Et je me suis retrouvé aux premières heures de la Super League à Perpignan, et peut-être c'est le stade, je ne sais pas, mais où, à la sortie, on parlait plus forcément de la défaite, mais on parlait du comportement de l'équipe. Et ce comportement, le public a été très satisfait. Donc, évidemment, la victoire aurait été mieux. Mais je pense que c'était peut-être le cap qu'il fallait que cette équipe passe. Et ça s'est, à mon avis, passé peut-être samedi à Aimé Giral.
Guy Laforgue, ton sentiment sur le sujet, pour une première?
Disons que, enfin, moi, mon sentiment, c'est que tout d'abord, il y avait quand même du monde à Aimé Giral. Après la défaite des Dragons au Celtic, bon, je pense que les gens sont quand même venus voir. C'est vrai qu'ils sont venus peut-être avec de l'appréhension, parce que, bon, du fait avec 10 blessés titulaires, bon, c'était pas évident. Il y a eu ces premières 10 premières minutes où j'ai senti que tout le monde a adhéré donc au jeu des Dragons. Les supporters étaient contents, ça criait. Bon, et puis après il y a eu ce 20 minutes de trou. Et là c'est vrai que même moi j'ai eu qui suis inconditionnel des Dragons, j'ai eu très peur, parce que Leeds quand même c'est les champions, et j'ai cru à un moment pendant 20 minutes, j'ai dit si jamais mentalement ils relâchent, on va vraiment prendre l'addition. Et puis, bon, ils sont repris quand même 10 minutes avant la mi-temps. Et à la seconde de mi-temps, ben, ils ont envoyé du jeu. Je crois que c'est ce qui a manqué jusqu'à maintenant. Ils ont pris des risques, ils ont envoyé du jeu. Et à partir de là, ben, ils ont un peu inquiété les Rhinos. Et puis après, même sur la fin, je pense que quand même, physiquement, les Rhinos, il y avait quelques joueurs qui vraiment traînaient un peu la patte, ce qui n'est pas c'est habituel chez eux, quoi. Donc en fait, à mon avis, le seul qui a réussi à ramener la victoire au Rhinos, c'est Maguire. Mais sinon, je crois que s'ils n'auraient pas eu ce joueur déception, à mon avis, on pouvait battre les Rhinos lundi. Mais enfin, bon, c'est une bonne réaction. Et pour Bradford, je crois que ça permettra aux jeunes et puis à ceux qui seront présents d'avoir aussi le mental pour gagner Bradford. Parce que rien n'est joué, comme a dit Olivier tout à l'heure, bon, la saison est longue. 6 points sur le 8ème, bon, ça se rattrape en Super League. Maintenant, bon, je crois que Bradford, c'est important, quoi. Bradford, je crois qu'il faut que l'équipe se dise que bon, ben, il faut gagner ce match, même d'un point, mais il faudra le gagner. Et s'ils arrivent à gagner Bradford, après, je pense que ça va aller mieux. Mais il faut envoyer du jeu, je pense, hein. Il faut pas rester, parce que si on va défier les gros, je pense que là, on va se casser les dents. Par contre, quand on joue sur les extérieurs, on voit que c'est pas mal.
Pascal Fage qui a délaissé son tablier de garçon de café deux secondes. Pascal, alors justement, Guy vient de nous dire qu'il faut envoyer du jeu. Est-ce que tu penses que c'est ce qui manque justement à cette équipe qui avait jusqu'à présent, d'après les grands techniciens du rugby à 13, un jeu stéréotypé, qui maintenant arrive à trouver une nouvelle harmonie collective?
Mais je sais pas, mais c'est vrai que depuis le début de saison, quand on les regarde jouer, à mon avis, il y a trop de... pas de 1 par 1, mais bon, ça écarte pas assez. Maintenant, peut-être c'est la méthode de Walter qui veut qu'on joue comme ça. Et, enfin, je sais pas. Moi, ça manque de jeu, à mon avis. Mais bon, c'est vrai que depuis le début de saison, ils ont eu à leur décharge un paquet de blessés. Et c'est pas évident, des joueurs clés comme Voss qui étaient annoncés à l'ouverture. Donc, voilà. Mais bon, faisons leur confiance. Je suis sûr que d'ici la fin de saison, ils nous montreront de belles choses comme l'année dernière.
Mais moi, écoute, je vais tirer un coup de chapeau déjà aux supporters qui étaient présents au stade, puisqu'on a retrouvé... je pense une vraie petite fournaise, même si le stade n'était pas plein, il était bien garni. Puis on a senti que quand les joueurs quand même commençaient à embrayer, ça, je pense que ça poussait fort. Ils ont dû bien le sentir sur le terrain. Oui, on demandera
à Jacques.
Mais je pense.
Supporters.
Oui, sur le terrain, on le sent, c'est sûr, c'est clair. C'est comme un 14e homme qui est avec nous, quoi. Hein. Quand ils nous poussent, quand on est dans leur camp, quand on met la pression, c'est sûr que cette euphorie, en plus le stade qui est fermé, là, on entend bien les échos et tout ça, ça aide, ça pousse. On a envie d'enfoncer le clou, quoi. Et on l'a ressenti là contre Leeds. Et bon, mais c'est dommage qu'on l'ait pas fait, mais c'est vrai que Après ce début de saison, ça fait vraiment plaisir de voir tous ces supporters qui viennent nous voir au stade d'Aimé Giral, qui est fermé dans un ordre un peu différent de celui de Brutus. Et ça fait vraiment plaisir de voir qu'ils sont toujours là à nous suivre. Et c'est pour ça que on le remarque ça déjà sur le terrain, mais en dehors, on le sait. Et on dit qu'on ne va rien lâcher pour eux aussi, parce que les supporters, c'est très important pour un club. Et on continue à travailler dur pour justement leur apporter des victoires qui sont très importantes, notamment à la maison. Quoi.
Voilà, donc c'est exactement ce que dit Olivier. Nous, on sera là toute la saison. De toute façon, premier ou dernier, on sera toujours là, puisqu'on sait que les joueurs ne font pas exprès de perdre. Hein. Ils sont pas quand même... on les aime, on va les pousser, on tiendra jusqu'à la fin de la saison, c'est sûr et certain. Donc c'est un appel aux supporters pour venir contre Bradford, pousser encore plus fort, parce qu'il va falloir vraiment gagner ce match-là. Puis après, pour revenir à l'équipe et au nombre de blessés, les jeunes, c'est bien hein, de les faire jouer, mais on tiendra pas une saison complète comme ça, en espérant que la casse va un peu laisser tranquille les dragons, que les cadres reviennent, parce que des Lima, des Sa, des Walker, tu vas pas pouvoir t'en priver toute la saison, c'est pas possible. Mais les jeunes, ils vont faire ce qu'ils peuvent, ils mouillent le maillot, mais il va falloir quand même que les cadres reviennent. Et ensuite incorporer le toucher de jeunes. Moi, je suis tout à fait d'accord. Et puis, la sauce va prendre.
Alors justement, il y a cette émergence de jeunes joueurs là, par la force des choses, puisqu'on les a propulsés, on les a bombardés, je dirais même, par nécessité, parce qu'il y avait de la casse. Quel joueur, s'il fallait en choisir un dans le lot, vous séduit le plus, soit l'un ou l'autre?
C'est délicat. Le joueur, je veux dire, on va faire la part des choses, on va faire un trois quarts et un avant.
Ouais, tu attires des copains, là. Vas-y, faut choisir.
Non, derrière, moi je pense que Vakari a vachement prouvé. C'est vrai qu'il y a deux ans, je veux dire, quand il était venu ici, n'avait pas encore la capacité d'intégrer une équipe de Super League. Mais là, je pense que les deux matchs qu'il a fait l'a prouvé. Donc c'est bien parce que c'est une personne de chez moi aussi, donc je suis longtemps. Donc non, et après, devant, je veux dire, il y en a deux. Je veux dire, bon, Martin, c'est pas un jeune. Je veux dire, ça fait un petit moment qu'il est dans l'équipe. Je veux dire, Andrew a beaucoup marqué. Je veux dire, le staff, les joueurs et tout. Donc, je lui tire un grand chapeau. Et donc, voilà. Donc, c'est vrai qu'ils ont été mis dans le groupe. Je veux dire, pas de la bonne manière. Ils ont été un peu pas obligés, mais je veux dire, ça a été dans les mauvaises conditions. Mais voilà, ils ont dû faire un match pour vraiment s'adapter, voir un peu réellement le niveau de Super League. Donc après, je veux dire, ce week-end, lundi, ça a été beaucoup mieux. Et je pense que samedi, ça va être encore deux fois mieux.
Olivier, c'est ton avis aussi?
Oui, moi je veux dire, encore une fois, c'est vrai qu'ils n'ont pas été mis dans les meilleures des occasions dans le groupe, quoi. Mais bon, c'est vrai qu'une chance, ça reste une chance. Et pour les jeunes comme Fred Vakari, qui a fait deux ou trois bons matchs là cette saison, ça fait deux ans qu'il attendait, ça faisait un petit moment. Mais bon, il a su attendre, être patient et prendre sa chance. Et il devrait figurer cette semaine normalement contre Bradford. Et puis ensuite, il y a un peu de monde. Il y a des jeunes comme Andrew, comme il disait Jaja. À Huddersfield, il a été élu homme du match par les joueurs. Donc pour un type qui n'a pas joué depuis, je ne sais pas, moi, ça doit faire un an et demi, deux ans, c'est quand même gros, quoi. Surtout par les joueurs, quand on est élu par les joueurs, c'est peut-être la meilleure élection qu'on peut avoir, quoi, être attribué. Donc, et après, il y a aussi, oui, Martin qui a les capacités à... Et de très grosses capacités pour devenir un leader devant, quoi. Il a encore beaucoup de travail à faire, mais bon, on sait que avec l'expérience, ils vont se forger. Et puis les balancer un peu comme ça, c'est vrai que on pouvait faire que ça, donc c'est pas les meilleures occasions, mais bon, c'est pour eux, ça reste une chance. Et on voit ceux qui ont les crocs, quoi. Et donc des fois, les révélations, on a vu Jean-Philippe Bell il y a deux ans, quand il a été jeté là-dedans un peu aussi. Et ça a été une révélation. Donc, qui sait, peut-être que Vakari gardera sa place à l'aile toute la saison. Je ne sais pas. Ça peut apporter des très bonnes nouvelles aussi. Donc, pour moi, c'est bien. Bon,
après, mais c'est bien pour le groupe. Ça donne un peu de concurrence, ouais, comme concurrence, certains. Donc, je veux dire...
Oui, parce que souvent, des fois, ça... La concurrence, elle n'était pas trop. L'équipe restait assez semblable, quoi. Donc c'était les gens pensaient qu'ils avaient leur leur place. Ouais. Donc la concurrence, c'est toujours bien, ça tire vers le haut. Donc pour ça, les jeunes qui sont là, ils peuvent faire leurs preuves. Et bon, mais celui qui était avant, il va se dire, faut que je fasse attention, je vais m'y remettre si on s'est arrêté un peu inconsciemment. Donc c'est bien pour ça. Quoi.
Avant de passer la parole à Alain Forge et à René Montala, moi j'avais une question. Jaja, toi qui étais dans les vestiaires, qu'est-ce qui a fait, qui a pris le pouvoir? C'est les joueurs qui ont pris le pouvoir en deuxième mi-temps d'aller écarter tous ces ballons et de jouer un peu un rugby comme on aime le voir? Ou est-ce que c'est l'entraîneur qui a dit, bon les gars, maintenant on a 20 points dans la carafe, on joue, on y va? Moi je me demande, j'ai ma petite idée, mais c'est pas les joueurs qui ont pris un peu le...
Mais déjà moi j'étais un peu déçu parce que je laissais ma place, donc j'avais pas trop envie, mais après c'est vrai que Kevin Walker voulait, en fait lui le plus important, voulait qu'on gagne la deuxième mi-temps, quoi. Voilà, il voulait pas qu'on gagne le match, mais voulait qu'on gagne la deuxième mi-temps et qu'on montre un autre visage. Donc ça a été fait, je veux dire le match fini, tout le monde était dans les vestiaires, j'étais à côté de Dallas, et la première personne qui a parlé, c'est Johnson Dallas. Tu as dit exactement comme Louis, et bien voilà, et bien c'est la première fois, au bout de 10 matchs, qu'on fait un match correct et qu'on joue avec de l'envie, quoi, surtout. Voilà, donc la preuve, je veux dire, les supporters sont repartis, déçus mais contents, quoi. Donc ça s'est vu, je veux dire, par tout le monde, et même par nous, joueurs, dans les vestiaires, ça s'est remarqué, quoi. Donc c'est un truc positif, c'est bien pour nous, ça... C'est vrai qu'on était un peu, je veux dire, le moral dans les chaussettes auparavant, mais ça nous a fait du bien, quoi. Je veux dire, après ce match-là, ça nous a fait énormément du bien. Mais
qui prend la parole généralement quand ça fout un peu le camp comme ça? Est-ce que tout le monde, en tant que capitaine, arrive à sortir un peu sa timidité? Parce que bon, on le connaît. Est-ce qu'il a pris un peu d'envergure? Est-ce qu'il y a un autre joueur qui prend le relais? Non, les anciens.
Je pense qu'il y a tout le temps, je veux dire, les personnes, je veux dire, les leaders, je veux dire, il y a Dallas, Olivier, Jérôme Guisset. Donc, toutes les personnes, je veux dire, se mettent un peu derrière eux pour les suivre un peu. Et voilà, donc le plus souvent, c'est ces personnes-là qui prennent un peu le rôle. Alors.
Des questions à poser, Alain?
Voilà, moi je vais en revenir sur Vaccari, puisqu'on appelle le Vaccari. C'est vrai que je le trouve en progrès. Il a fait preuve de qualité, de vitesse, de tonicité. Mais par contre, maintenant, il doit s'appliquer à lire le jeu et à se placer correctement en fonction des actions qu'il a à accomplir. Parce que ça, il faut réfléchir aussi par moment. Et ça, il lui manque encore cette façon. Maintenant, il s'est amélioré. Et ce qu'il faisait avant, je le voyais jouer à l'UTC, il partait souvent latéralement. Et maintenant, on voit qu'il redresse ça, il a travaillé. Hein. Il redresse directement sa vitesse de course. Pour en revenir au match... moi j'ai trouvé qu'on a été... Non, ça c'est les trucs que j'ai bu sur les rhinos. 10 minutes on a été bon, les 10 premières minutes. Après il y a cet essai un peu heureux de Litz sur le coup de pied à suivre, il y a un rebond qui était vraiment bizarre, hein. Bon, on n'était peut-être pas trop bien placé. Mais après les rhinos, au bout de 10 minutes, ils nous ont fixés au milieu. Ils nous ont fixés tout le temps au milieu parce qu'avant d'écarter. Et nous, une fois qu'on a été bien fixés au milieu, ils ont écarté. Et ils ont jugé, joué sur le manque d'expérience de nos centres. Parce que j'ai vu que nos centres ont fait des erreurs, on ne glisse pas, et on a pris de la dixième à la 22e minute.
Juste une question, ouais, par rapport à nos centres. Je veux dire, les deux centres qu'ils ont joué, c'est deux avant, quoi.
Oui, c'est ce que je dis. Donc, non, mais je ne leur en veux pas. Je dis que les Anglais ont joué là-dessus. Ils ont joué là-dessus, ils ont vu qu'on ne glissait pas, on s'est fait fixer.
Après, ils ont l'habitude de défendre, voilà, différemment qu'un centre.
On a été meilleur en deuxième mi-temps. Parce que j'ai entendu, on l'a beaucoup critiqué, mais Campbell est passé au centre, parce que là on a glissé, et ils ne sont plus passés en deuxième mi-temps, sauf sur la dernière action où il y a une interception.
Une analyse, quelqu'un d'autre, Jean-Marie, Guy, René?
Moi j'ai une question à poser aux joueurs. La cascade là, de blessures, ça ne vient pas aussi d'une mauvaise gestion des joueurs du groupe?
Comment vous dire, les blessures, c'est toujours un peu dur à trouver les origines, mais bon, c'est vrai que il y en a eu beaucoup depuis quelques temps. L'année dernière, il y en a eu pas mal aussi. Cette année, il y en a beaucoup. Est-ce qu'on peut mettre ça sur le dos des préparateurs physiques? Je pense pas, parce que bon, mais on peut mettre ça aussi sur le ratio de matchs qu'on a par saison aussi, entre ceux qui font l'international et ensuite qui renchaînent avec la Super League. C'est vrai que des week-ends comme ça où on joue 3 matchs en 9 jours, c'est vraiment dur. Et bon, mais on le voit, il n'y a pas que chez nous où il y a des blessés, il y a dans tous les clubs. Bon, mais peut-être que des fois c'est un peu plus ici et des fois un peu plus dans un autre club.
Bon, il y a deux ans, quand on a fini troisième, il n'y a pas eu autant de blessés que ça, quoi. Donc ça y joue beaucoup. Mais bon, il va y avoir des années comme ça. Mais le mettre sur le dos de quelqu'un personnellement, je pense pas que ce soit bien, parce que bon, ben c'est déjà c'est pas prouvé. Et puis bon, nous en tant que joueurs, si on trouve qu'il y a trop de charges d'entraînement, on va en parler. Les joueurs un peu seniors entre guillemets, on va en parler au coach. Il va faire en fonction de ce que les joueurs ressentent, quoi, aussi. Donc c'est très dur, cette question. Et après c'est sur des choses individuelles, quoi.
Enfin, c'est pas sur la préparation, mais c'est surtout sur le management, faire tourner les joueurs, pas les faire jouer tout le temps en permanence.
Pour pouvoir faire tourner, il faut déjà un groupe qui soit profond, quoi. Bon, mais là, c'est vrai qu'avec les blessures qu'il y a eu avant la saison, on n'a pas pu faire trop tourner, quoi. Donc là, on est obligé de faire tourner par rapport aux blessés qu'il y a. Et bon, mais comme il y a pas mal de joueurs, notamment qui viennent de l'UTC et qui sont capables de jouer au niveau de Super League. Peut-être avec un peu moins d'expérience, mais qui sont capables de jouer au niveau. Mais ouais. C'est bien. Mais bon, c'est vrai que pour pouvoir faire tourner, il faut quand même peut-être un squad un peu plus grand, avec des joueurs qu'on soit sûr qu'ils soient performants quand ils rentrent, quoi. Donc, oui. Je pense que ça aiderait aussi, parce qu'il y a des clubs comme Huddersfield, je sais, qui font tourner leurs piliers systématiquement. Et bon, mais c'est sûr qu'un match en moins dans les pattes, ça fait du bien, ça, la fraîcheur.
Surtout que tu as raison, c'est qu'Underfield, quand je regarde, ils ont perdu déjà à Salford, hein, donc ils ont dû faire tourner certainement lundi, voilà, exactement. Mais donc, pour en revenir, histoire de tourner, bon, il ne faut pas être naïf, hein, l'entraîneur, Walters, il est là pour avoir des résultats. Alors on va pas le critiquer parce qu'il va tourner, je suis désolé. Parce qu'il met des jeunes, alors qu'il laisse à côté des gens qui sont en forme, ça va pas le faire tout ça. Donc que veut le spectateur, que veut le supporter? Parce que le supporter, là, on en parle souvent, qu'est-ce qu'il veut? Mais ce qu'il veut, oui, il est pénible et versatile aussi. Hein. Il était là. Pardon ? Et exigeant, ouais. À la fin de la première mi-temps, ben écoute, presque il serait parti chez lui. Et la seconde mi-temps, à la fin, vous étiez les plus beaux et les plus forts. C'est comme ça que ça se passe tout le temps. Ça se passe comme ça.
Alors, en fin de première mi-temps. Match de Bradford en coupe.
Oui, voilà, tu te souviens, c'est vrai. Enfin, pour en revenir à l'entraîneur, ben, on va pas le critiquer, puisque lui, ma foi, ben, il a les joueurs qu'il a. Non. Mais vous pouvez. Non, je parle de faire tourner. Mais non, une meilleure gestion. Il va mettre systématiquement les meilleurs joueurs qu'il a sous la main. Un jeune, il ne le fera pas rentrer à la place d'un autre. Point, c'est comme ça, voilà.
Non, je posais cette question, c'est pour pas en arriver à ce truc de devoir faire jouer 10 jeunes. Alors qu'ils n'étaient pas habitués. Peut-être les faire tourner sur certains matchs, peut-être ils auraient mieux appris et ils apporteraient plus.
Oui, mais enfin, sur ce cas, ce qu'on a dit, bon, au niveau des centres, c'est vrai que, comme a dit Olivier, bon, ce n'était pas les centres de métier qu'on a, donc il faut compenser. Bon, Walter a pris la décision de mettre donc, Carlo et Julien Touchagas, mais bon, c'est vrai qu'on n'avait pas de centre vraiment de métier, donc c'est vrai qu'ils ont mis un petit moment à se mettre en place. Bon, par contre, depuis quelques matchs, sur le côté droit, défensivement, on n'est pas trop fort. Et c'est là où les dangers arrivent souvent, c'est sur le côté droit. Donc il y a quelque chose, à mon avis, à régler là-dessus. Et je pense aussi que malheureusement, pour nous, par rapport à une équipe comme Leeds ou à d'autres équipes, c'est qu'on manque de jeu au pied. Et là, on a un jeu au pied qui est déficient, quoi. Enfin, je pense qu'il faut qu'on améliore ce jeu au pied, mettre les arrières et les ailiers adverses en plus grande difficulté que ce qu'on a vu encore lundi soir, quoi. Voilà, bon, après... Je pense qu'on peut leur faire confiance pour rectifier tout ça.
Oui, moi je voudrais revenir là parce que bon, on a enchaîné sur des problèmes techniques, sur le problème de changer les joueurs. Moi je pense que c'est pas une conception professionnelle. C'est la grande discussion sur l'affaire des remplaçants. Je pense qu'aujourd'hui, le rugby actuel, qui n'était pas le nôtre, c'est qu'il faut faire avec 17 joueurs et les 17 meilleurs. Mais il y a une réalité aussi que bon, on a pu apprendre, c'est que les supporters, ils viennent pour voir l'équipe type qui est annoncée. Donc la notion de rotation telle qu'on l'entend dans les clubs de fédéral, voire peut-être en élite, de dire ce joueur aujourd'hui, il faut le faire reposer, c'est pas vrai. Parce que si on remonte à une certaine époque du rugby, les effectifs étaient très limités, il n'y avait pas de remplaçants, et les anciens vous disent on faisait la saison à 17-18 joueurs. Et avait 13 sur le terrain qui souvent finissaient à 12. Et dans les équipes professionnelles, ça c'est l'expérience de la télévision que je peux avoir à ce niveau d'approche du jeu, c'est que c'est pas compliqué. Les joueurs ils sont numérotés de 1 à 22 ou 23, mais en règle générale, à part des exceptions pour des questions internes de club, le 1 c'est toujours l'arrière, le 2 c'est toujours l'ailier droit, etc. Et lorsque vous voyez la composition des équipes, en règle générale, tant qu'ils peuvent, les entraîneurs mettent l'équipe type en permanence. Et les supporters dans des clubs comme Wigan, et ça, Maurice Lindsay le disait toujours, les supporters, ils viennent voir les bons joueurs qui sont dans le club. Quand ils n'y sont pas, c'est qu'ils sont blessés. La notion d'un bon joueur qui ne joue pas, ça n'existe pas dans le circuit professionnel. Voilà. Et je pense qu'il faut que nous, on intègre cette dimension très professionnelle du système, qu'on n'a pas encore peut-être acquise et qui nous fait aborder des discussions comme ça. Et c'est vrai. Par contre, comment donner du temps de jeu aux jeunes, ça c'est une autre problématique. Et la force des choses a fait qu'ils en ont eu beaucoup lundi à Aimé Giral, ben tant mieux, ce sera pris pour l'avenir et c'est toujours du mieux. Mais quand les cadres vont revenir, les cadres reviendront à leur place. C'est tout à fait normal.
On en revient à l'intérêt d'avoir une préparation physique adaptée, très pointue. Olivier, toi qui as joué à Wakefield plusieurs saisons, est-ce que la préparation physique est identique chez les Catalans ou du moins est similaire par rapport aux Wildcats?
Oui, c'est très similaire. En fait, le travail de fond qu'on fait, c'est un gros travail quoi, déjà. C'est un peu la marque du rugby à 13, quoi. C'est avec les chocs et les courses qu'on doit faire, tout ça, c'est vraiment un gros travail physique qu'on fait au début d'année. La façon dont elle est faite, ça peut varier un petit peu, mais sur le général, c'est toujours la même chose, quoi. C'est un gros travail pendant 2 à 3 mois. Et souvent en Angleterre, en plus, il fait nuit très tôt en hiver, donc les journées et les soirées sont très longues, quoi. Donc la pluie, la boue, c'est très dur. Mais c'est pour ça que peut-être mentalement, les Anglais, ils sont peut-être un peu plus au-dessus de nous. Puis bon, c'est vrai que les Dragons, c'est un club qui est encore jeune. C'est la cinquième année, donc tous les clubs anglais, ils ont des dizaines d'années derrière eux. Donc mais bon, au niveau de la préparation physique, c'est à peu près la même chose. Hein. C'est du gros travail. Et aussi, il y a un travail de rassemblement, de rapprochement des joueurs. Ils font souvent un voyage avant la saison.
De cohésion. Ouais.
Voilà, dans un climat où il fait un peu plus chaud, au Portugal, ouais. À Dubaï, il y en a qui ont fait, Londres ont été à Dubaï quelques fois. Et ça, il reste une semaine et c'est pour s'entraîner, mais aussi pour que les nouvelles recrues soient un peu plus proches et que les joueurs se connaissent, quoi, parce qu'une équipe de rugby, c'est ça, quoi. C'est, il doit y avoir 50% de physique et après 50%
d'amitié,
d'effectif, de lien et l'homogénéité du groupe. Il faut que la sauce prenne et bon, mais c'est vrai que nous, on l'a fait l'année dernière, on a eu ce stage à la neige, mais bon, c'est vrai que ça ferait du bien quand même de se retrouver avant pour qu'on connaisse Walker, qu'on connaisse Johnson, qu'on connaisse ça un peu plus et que les joueurs se rapprochent, quoi, après des longues séances et des longues journées d'entraînement. C'est vrai que des fois, ça peut beaucoup aider, quoi.
Et puis, pour en revenir au Dragon, je pense qu'on a oublié de préciser quelque chose. On a peut-être été des enfants gâtés, nous les supporters, un peu trop tôt. Les Dragons ont 5 ans d'existence, on est allé à Wembley, on finit 3e, on fait un play-off où on écrase Warrington à la maison, on fait une autre année où on se qualifie encore pour les play-offs où on va en demi-finale. Il est jeune le club des Dragons. Et j'ai discuté avec des supporters anglais qui me disaient, il y a des clubs comme Huddersfield qui ont 100 ans d'existence, qui n'ont pas fait un quart de ce que vos joueurs ont réalisé. Est-ce que vous réalisez un peu? Alors c'est vrai, ben, vous nous avez habitués au meilleur. Eh ben, il faut peut-être penser qu'une année, on peut passer à travers parce qu'il y a des blessures, parce qu'il y a des choses qui font que ça ne se passe pas comme on veut le faire. Excusez du peu, on a perdu Wilson, on a perdu Chan, on a perdu Crocker, on a perdu Bird, on a perdu Riles. Tout ça en 2 ans, ça ne va pas se remplacer avec des jeunes Français qui vont arriver comme ça en claquant des doigts. Alors certes, nous on est Français, les Français contre les Anglais, le public veut que les Dragons gagnent, mais il faut laisser du temps. Je souhaite que les Dragons aillent loin en Cup cette année avec un bon petit tirage, si ça peut se faire, qu'on finisse pas dernier en championnat, ils finiront pas dernier avec l'équipe qu'on a. Mais si on fait une saison où ça ne qualifie pas pour les playoffs, eh bien, on rechargera les batteries et on repartira de plus belle l'année prochaine.
Eh bien, justement, il y a un sujet brûlant à aborder, puisque là, on est entre amis, on est autour d'une bière, donc dans un café. Autant en parler à bâton rompu, Jamel, Olivier, vous êtes les principaux concernés. L'arbitrage, voilà. C'est le sujet qui fâche, mais c'est une réalité aux yeux de tout le monde. Alors vous, comment vous le vivez ?
Est-ce que ça passe en Angleterre ?
Pardon ? Non, ça ne passe pas en Angleterre. Non, tu ne seras pas sanctionné. Olivier, c'est très important que les auditeurs et les internautes puissent écouter ce que tu as à nous dire, et Jamel, pareil. Ça ne passe pas en Angleterre, Louis. Non, ça reste...
Après, il faut qu'on reste, qu'on passe pas les, on dépasse pas les limites. Mais bon,
borderline.
C'est vrai que moi, ayant joué déjà à Wakefield, je sais que il y a des a priori déjà pour les arbitres. Quand on joue contre un club qui est dans les 3-4 gros premiers, c'est vrai que les décisions 50-50, c'est souvent du côté du grand club, quoi, qu'elles sont prises. Donc, mais quand je suis venu au Dragon, c'est vrai qu'il y a une petite différence. C'est que souvent on a l'impression que les Anglais n'ont pas envie d'avantager les Français pour justement pas être pointé du doigt et qu'on leur dise tu as voulu les avantager parce que peut-être tu es Anglais et tu veux pas mettre les Anglais en avant, quoi. Donc des fois c'est vrai que pour ça c'est un peu dur. Après bon, il y a des règles qui font que les joueurs ils connaissent très bien les règles, et bon, mais des fois les supporters, il y a des règles un peu techniques qu'ils connaissent pas, et bon, mais des fois, moi j'étais dans les tribunes la semaine dernière, il y a des fautes que je pense elles y étaient, c'est sûr, et ils nous font pas faire les fautes, hein, c'est simple. Donc nous on le fait et on les voit, mais bon, c'est vrai que des supporters à côté disaient mais il y a jamais faute là, il y a jamais truc. C'est sûr, c'est un peu désagréable pour nous quand on est dans les tribunes, parce que en tant que professionnel on connaît très bien les règles, mais c'est vrai que des fois aussi on sent très bien qu'il y a, français, anglais qui il y a un petit mur, quoi. Donc moi je le sais très bien parce qu'avec l'arbitre déjà j'ai pris un carton rouge. Comme j'étais le capitaine, j'ai le droit de lui parler à cet arbitre, et même en étant capitaine, souvent il met un mur entre nous, quoi. Alors que bon, mais c'est mon droit le premier de lui parler parce que normalement il n'y a que moi qui pourrais lui parler. Et bon, mais c'est vrai que des fois, t'as l'impression qu'ils sont venus, bon, je veux pas dire en mission, mais je veux dire, des fois, c'est assez ralent, quoi. Donc,
est-ce qu'il se comporte comme ça, généralement, l'arbitre, quand l'adversaire, le capitaine, demande un petit renseignement ? Est-ce que souvent, justement, il met une barrière, comme tu dis ?
Non,
ou pas ?
Non, mais c'est pas tous les arbitres non plus. Il y a des jours comme ça, et avec, et des jours sans, quoi. Donc... mais bon, souvent c'est difficile de pouvoir leur parler, parce que bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs qui raillent, il y a beaucoup de joueurs qui viennent et qui leur demandent plein de choses, et bon, mais au bout de la troisième fois, ils en ont assez, ils veulent plus parler aux joueurs. Mais bon, c'est vrai qu'un arbitre, ça doit être partiel. Et puis bon, mais quand on lui demande une explication sur quelque chose, il faut qu'il nous le dise, quoi. Donc c'est pas toujours le cas. Et puis comme on est beaucoup pénalisé, on a envie de demander beaucoup d'explications, et peut-être ça énerve l'arbitre.
Alors Olivier, juste une petite précision, parce qu'il y a énormément de supporters de Dragon qui a une question à te poser. Le jour que tu prends le rouge contre Saint-Hélens, est-ce que c'est vrai que tu entends, est-ce que c'est l'arbitre de touche qui crie raid à l'arbitre de centre ? Parce que déjà que notre ami Monsieur Pereira, pour pas le nommer, c'est pas notre ami en ce moment, parce que le bâton bientôt on va lui faire, si toi tu peux pas le dire, nous on va lui faire avaler si ça continue. Est-ce que c'est vrai ça ou pas ? Parce qu'on a entendu une histoire.
Non, moi je l'ai pas entendu, dire raid.
Il a de la chance.
Et puis enfin, moi, mon impression que j'ai eue, c'est qu'il a, avant de mettre le carton, il n'a pas été consulté ni les deux arbitres de touche.
Jamais.
Et que il a attendu. Et que je pense que c'est par l'oreillette qu'on lui a demandé de prendre des actions et de mettre rouge.
C'est intéressant de savoir ce qu'en pense Jamel aussi, toi. L'arbitrage anglais, tu t'y fais, tu t'y fais pas ?
T'as pris des cartons, Jamel, toi ?
Pas de carton, mais j'ai pris l'année dernière 3 matchs quand même de suspension. Voilà, donc j'ai un petit défaut de plaquer un peu au-dessus des épaules. Donc voilà, mais sur le moment, j'ai jamais pris de jaune ou de rouge. Des rapports, oui. Mais après, ça passe en commission de discipline. Donc après, c'est là où j'ai pris 3 mois de suspension et je crois 1000 euros d'amende. Donc voilà. Mais après, nous, les joueurs, il faut le savoir que dès qu'on rentre sur un terrain, c'est à chaque fois du 60-40. Donc se le mettre à la tête et après... Après, ça fait partie du jeu, donc je veux dire...
C'est lucide, que tu arrives à garder ton sang-froid, c'est ça ?
Il faut, de toute façon,
il faut. C'est pas le choix.
Non, on est obligé. On peut contrôler que ce qu'on peut contrôler, quoi.
Donc après, on le sait que, si on fait un truc, on est sanctionné soit par une amende, ou soit par une amende financière, ou soit par, des matchs. Donc, voilà.
René, tu as une information importante à nous faire passer.
Une information, non, tout simplement pour vous dire qu'on peut écouter l'émission sur Rugby Forum 13 et sur Contact FM tous les vendredis à 18h et un rediff le samedi à midi. Voilà, c'est dit.
Bon, alors vous joueurs, on vous pose une question maintenant à vous et ce sont les supporters, nous-mêmes, qui allons répondre. Est-ce que selon vous, le supporter justement a trop tendance à pester contre l'arbitre ou est-ce que c'est justifié? Vous l'entendez forcément du bordel sur le terrain.
Est-ce que vous trouvez que c'est pénible sur le terrain d'entendre le public? Non, c'est pas pénible. Allez-y. Au moins, eux, ils parlent pour nous. Donc, comme nous, on peut rien dire.
Voilà.
Je veux dire, c'est eux qui le font à notre place.
Ils ne sont pas toujours les fautes, même si on crie.
Mais tant mieux, s'ils peuvent changer de direction. Non, mais après, je veux dire, non, ça fait du bien. Donc après, on sait que nous, on peut rien dire. Son arbitre ne veut rien entendre et tout ça. Donc, au moins, je veux dire, les supporters peuvent lui parler, je veux dire, en restant correct, mais crier ou quoi, mais voilà, donc non, pour moi ça me dérange pas, au contraire.
Alors on parlait aussi tout à l'heure de la déficience du jeu au pied, il y a les techniciens, là, en l'occurrence à gauche, Jeannine Debon, qui a joué début d'ouverture à PIA à l'équipe de France. Pascal, très honnêtement, le jeu au pied, toi, effectué par les Dragons, réalisé par les Dragons, est-ce que tu penses qu'il y a matière à l'améliorer?
Certainement, mais maintenant comme tu le dis, je n'étais pas un grand spécialiste du jeu au pied. Louis Bonnery peut me confirmer dans mes dires. Mais bon, je pense qu'il y a toujours un moyen d'améliorer. Maintenant, je ne pense pas être assez qualifié. Voilà, à un moment donné, c'est l'entraînement qui paye. Peut-être Loulou.
Loulou. Moi, je pense que l'un des problèmes majeurs que rencontre le jeu au pied, quelle que soit sa forme, des Dragons catalans, c'est qu'il met rarement en difficulté le réceptionneur ou la défense adverse. Or, l'aspect tactique du jeu au pied, en dehors du déplacement de terrain, c'est quand même de rendre compliqué la réception de la balle pour permettre à la défense d'arriver, éventuellement de provoquer une faute. Et cet aspect tactique du jeu au pied me paraît un peu faible à l'heure actuelle dans le jeu au pied des Dragons. Voilà, c'est un constat. Autant le jeu adverse, mais bon, on ne met pas souvent en difficulté les bons réceptionneurs comme Grinchit, par exemple, qui lui est attiré en permanence au point de chute de la balle, mais on voit souvent sur des coups de pied bien travaillés la difficulté qu'a le réceptionneur, les efforts qu'il doit faire pour ne pas faire une faute. Or, chez les Dragons, on a l'impression que la réception chez l'adversaire, elle est facile. Voilà, c'est l'impression qui ressort du terrain. Donc je pense que bon, les entraîneurs sont assez qualifiés pour essayer de remédier à tout ça. Et le problème chronique que nous vivons, peut-être pas Olivier parce qu'il n'était pas là au début, mais c'est quand même la situation chronique sur les coups de renvoi aux 50 mètres où nos coups de pied sont tout à fait lisible par le public et par l'adversaire, alors que quand c'est les autres qui donnent un coup d'envoi et qu'il faut qu'ils gagnent la balle dans des moments importants du match, ils la gagnent tout le temps face au Dragon. Donc je pense qu'il y a assez de techniciens au Dragon et les joueurs aussi sont conscients de ce problème.
D'accord. Alors, bon, moi je suis d'accord avec Louis, mais ce que je voulais dire, pour la première fois, samedi, quand on avait les pénalités, on a vu Bosse qui tapait des touches plus longues que d'habitude, parce que d'habitude on met des touches à 5-10 mètres, chaque fois ça fait un tenu ou deux de plus pour les avants, pour arriver à la même hauteur, et ça c'est fatigant, vous trouvez pas? Pour les avants, ça me soulage.
Ça doit être le stade de Clé.
Oui, parce que là, les coups de pied étaient plus longs, ouais, c'est vrai.
Bon messieurs, nous avons dépassé allègrement la demi-heure qui nous était... donné, on va repartir, on va faire une petite trêve Dragon, on va parler un petit peu de l'Aller, et donc deux demi-finales qui ont été disputées ce week-end, Limoux qui a battu Carpentras, ça n'a pas été réellement une surprise, Lézignan Carcassonne, ça n'a pas été une surprise, mais bon, c'était plus disputé, on s'en doutait, Guy Laforgue, une finale Limoux-Lézignan, donc quelque part, la logique sportive est respectée.
Oui, la logique sportive est respectée, parce que c'était les favoris. Enfin, à mon avis, c'est les favoris, les deux. Maintenant, la finale à Avignon sera très disputée, le 2 mai. Donc, je crois que c'est du 50-50, hein, même si Lézignan me paraît un peu mieux. Bon, on verra bien le 2 mai. Sur ces matchs, on voit quand même qu'une équipe comme Carpentras a fait des efforts, ils ont formé des jeunes. À ce moment, il y a des jeunes qui sont pas mal sur Carpentras. En plus, avec Renaud Guigue donc à la manœuvre, et puis aussi Patterson, l'anglais à l'ouverture, ou l'australien, je ne sais pas s'il est anglais ou australien. Mais enfin, avec ces deux joueurs, ils mènent bien le jeu. Ils ont des jeunes comme le petit Conta, etc., qui sont très très forts. Moi, je trouve très forts à 20 ans. Et donc, ils ont posé des problèmes à Limoux, donc c'est très bien. Même je pensais qu'ils pouvaient faire la surprise, quoi. Tant pis, tant mieux pour Limoux, tant pis pour eux, mais bon, c'est vrai que Carpentras là-bas à Avignon, ça aurait été bien.
Voilà. Écoute-moi, Guy, ce qui m'a fait plaisir, c'est de voir plus de 4000 personnes à Limoux quand même pour les Ignan Carcassonne. Ouais. Il y a un sacré public dans l'Aude. Bon, on le voit qui viennent aux Dragons, parce qu'on en voit souvent les Dragons Gabatch qui viennent nous soutenir, leur tirer un coup de chapeau parce qu'ils se font des allers-retours.
Ça fait plaisir de voir les stades un peu pleins à rugby à 13.
Voilà,
et à Limoux et à Carcassonne, surtout à Limoux, puisque moi j'avais connu une demi.
S'il n'y a pas de monde, on ne joue pas à Limoux. C'est pas compliqué.
Une demi-finale à Limoux où les gens ils étaient même sur le tableau d'affichage là-bas, assis, et il y avait du monde de partout.
Et à noter aussi que Carpentras se refait la cerise cette année. Il y a du monde à Carpentras, parce que mon père est en Bouches-du-Rhône, il va aller voir jouer. Il y a du monde à Carpentras, Avignon, ça
tourne, mais c'est. Vaucluse, c'est toujours tréziste.
Bon, terre tréziste.
Je pense qu'ils attendent d'avoir une grande équipe aussi en Vaucluse. Avignon travaille pas mal. Carpentras aussi, et ben maintenant, je pense qu'ils se font à tous les deux. Essayer d'être le premier à avoir la grande équipe là-bas. Enfin, moi, je pense qu'il faudrait quand même qu'ils s'associent pour avoir une super équipe dans le Vaucluse.
Et on peut noter, Guy, que tous les joueurs qui sont passés par les Dragons, Renaud Guigue, les Katabi, on voit quand même, dès qu'ils arrivent dans un club, ça apporte énormément. Donc, il n'y a pas de secret.
Ils ont l'expérience du haut niveau, et donc il n'y a pas mieux, quoi. Donc, c'est important. Et moi, ce que je dis là, actuellement, c'est qu'avec les jeunes que je vois, moi, à l'équipe de France, c'est moins de 16 ans, moins de 18, moins de 25, il y a beaucoup de jeunes très intéressants, et ça peut qu'amener plus tard dans des équipes d'élite 1 niveau encore plus haut. Et puis bon, si le niveau est plus haut en élite 1, ben les spectateurs ils viendront voir, hein, les
avant de passer la parole à Louis qui a versé une petite larme parce que son Limoux de cœur a été éliminé malheureusement, mais
la bière là, Olivier, à force de suivre les Dragons, il oublie tout le reste,
c'est la bière. Non, mais je voulais noter trois finales successives, c'est vrai, oh là là, je suis perdu. Mon ami Jérôme Lafont va me flageller. Oui. Non, mais.
Mon Ferrand Limoux et le combat.
Je voulais le brancher, mais je me suis trompé, oui. Mille excuses, mon ami. Non, et à noter, à Isle-sur-Tête, devant plus de 1500 spectateurs, une demi-finale junior entre Pia, puisque nous sommes aujourd'hui à Pia chez notre ami Monsieur Fage. Une superbe demi-finale remportée par les Pianais 44-40, il me semble, à la dernière minute, avec une demi-finale de feu. Donc c'est à noter aussi plus de 1000 personnes pour des juniors. Ça fait du bien pour le 13 français en général.
Et les Pianais, il faut le souligner, parce qu'ils étaient quand même ils étaient présents et en nombre, puisqu'il y avait l'équipe de Baroudeur et l'équipe 1 de Pia au complet aussi. Donc il y a une vraie fusion entre les trois clubs, c'est très bien.
Je pense qu'il faut lui supprimer quelques bricoles autour de la table parce que ne pas oublier Limoux, quelle erreur. Bon, c'est pas grave. On sera là quand même à la finale.
Et Louis Jamel a précisé quand même trois finales perdues, hein, pour Limoux. Ah,
non, ce qu'il faut retenir, c'est que quand même, pour notre région, le pays des dragons, quand même, nous avons quatre équipes du Languedoc-Roussillon qui vont aller faire la finale en Provence. Mais il n'y a rien de surprenant, puisque Christophe Jouffré, quand on parlait de ça à Aimé Gérald, avant le match, il disait, moi j'ai fait qu'une finale dans ma vie, c'était Avignon-le-Ponté, et on est allé la jouer à Albi. Donc,
c'est cohérent tout ça. C'est cohérent. Alors, on va, puisqu'on les a, on les garde, bien au chaud, les deux joueurs. Il y a des questions des forumistes.
Oui, alors, il y a des questions. Il y a un peu pour tout le monde d'ailleurs, des questions. Mais écoute, on va commencer par la première qui a été posée par. Mais tu le connais bien d'ailleurs, il est de routier, il s'appelle Scarsface. Alors, il pose cette question à Olivier, écoutez bien ça Olivier, parce qu'évidemment ça fait couler beaucoup d'encre. Que pensez-vous des performances de Sandburgers en NRL, et est-ce que cela vous donne envie d'aller évoluer dans ce championnat? Surtout que je pense qu'il y en avait déjà parlé, non, il y a quelque temps.
Oh non, enfin,
tu suis d'ailleurs les performances de Burgers.
Non, pas trop, puisque voilà. on peut sur Sky, il ne repasse plus, et puis il faut une chaîne qu'il faut aller chercher je sais pas où pour les voir. Donc je les suis sur les journaux, les résultats un peu, je regarde les équipes. parce que j'ai pas mal de copains qui sont là-bas aussi. Et bon, c'est vrai que pour revenir à la question, Sam Burgess, je le connais par rapport à Bradford. Ça fait un petit moment qu'on joue contre eux. Moi, quand j'étais à Wakefield déjà, donc c'est un jeune qui a beaucoup de qualité, qui est très jeune, quoi. Donc il a encore beaucoup d'années devant lui pour progresser. Et c'est sûr que le championnat australien, la NRL, pour toute résiste, je pense que c'est le summum, quoi. Donc je veux dire, moi, est-ce que ça m'intéresserait d'aller là-bas? Je pense que c'est comme si on me demandait quand j'étais un peu plus jeune et que j'évoluais à Pujol et à Bias, si je voulais jouer en Super League, quoi. Donc ça reste quand même un rêve pour moi, ça reste une question qui reviendra. Et bon, mais pour l'instant, moi je veux, c'est ma troisième année au Dragon, j'ai signé pour 3 ans, j'ai fait 2 playoffs et mon but c'est de faire 3 ans au Dragon et de faire 3 playoffs. Et après, si on le fera plus, on en fera plus, on parlera peut-être avec les dirigeants et on verra comment ça se passe. Mais bon, moi mon but premier c'est tout simplement de faire des playoffs encore cette année et passer encore du bon temps avec les Dragons.
Voilà. Alors, une autre question. Bon, elle vient de notre ami Pilou, mais je crois qu'il est de Pia, celui-ci, là, Pilou. Bon, il me demande comment voit-il son avenir aux Dragons. Bon, je crois que tu as répondu.
Une question vous deux, peut-être. Hein, et pardon, Jamel aussi, ce serait intéressant.
Bon, alors, on va passer à Jamel. Alors, Jamel, il y en a une tartine. Alors, un petit peu la même question, elle est de Damien. Alors Damien, je crois qu'il est dans le 06, lui. Il dit, comment sent-il depuis le début de la saison? Comment voit-il son avenir rugbystique? Et quel est son poste préféré? Et cette question de poste préféré, elle revient souvent.
Ouais.
Alors la première, c'est, comment sens-tu depuis le début de la saison?
Mais, comment je me sens, je veux dire, bien, voilà. Je me sens bien, donc... ça va, c'est vrai que j'ai eu sur les 10 matchs, j'en ai fait 8, donc je suis assez content. Ensuite, mon poste préféré, c'est vrai que depuis un an et demi, je veux dire, je joue à un poste où franchement je me régale pas, donc les coachs le savent très bien. Donc je joue au poste de milieu, je veux dire pilier ou troisième ligne, donc c'est un poste qui me convient pas vraiment. Donc mon poste préféré, exactement, serait deuxième ligne, quoi. Donc, comme j'ai pu l'attaquer, je veux dire, lundi, donc c'est pour ça que j'étais un peu déçu d'avoir cette blessure, parce que c'est là où je commençais vraiment à reprendre mes repères, que ce soit en attaque ou défensivement en deuxième ligne. Donc, c'est, je veux dire, voilà, donc c'est vrai que mon poste préféré serait deuxième ligne, droite ou gauche, peu importe.
Voilà, mais juste pour rebondir, puisqu'on a Olivier et Jaja, merci de ta franchise pour dire que tu joues à un poste qui te plaît pas, c'est vrai, parce que nous, alors c'est, les supporters se posent beaucoup cette question, on voit Gigot au talon, on voit, bon, ça à l'ouverture pour dépanner, la joue à l'ouverture NRL, certes, mais c'est une centre, mais on voit beaucoup, beaucoup de joueurs qui ne sont pas, qui n'évoluent pas à leur poste respectif, et qui ne l'ont jamais été dans le passé, donc... De quoi, d'où ça vient? Bon, c'est sûr que nous, on n'est pas avec vous à l'entraînement, les entraîneurs vous voient évoluer, mais on ne comprend pas, franchement. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de tout ça?
À un moment donné, ce qui a tendance à arriver, c'est que bon, ben, une recrue, c'est une recrue, et bon, ben, si on peut le mettre à un poste où il n'a pas évolué, alors qu'il y a peut-être un jeune qui est formé pour être là. Souvent, on va préférer mettre la recrue dont on a parlé dans les journaux beaucoup que mettre un jeune. C'est dans les grands clubs, souvent, ça se passe comme ça, quoi. Donc, souvent, il ne faut pas regarder très loin. Il faut regarder que, des fois, un Australien, ça peut passer devant, même si ce n'est pas la position dont il évolue d'habitude. Souvent, c'est comme ça. Et puis, bon, mais les supporters aussi, il faut voir qu'ils veulent voir ces joueurs aussi. Et il y a peut-être beaucoup de supporters qui demanderaient mais pourquoi l'Australien, la recrue qu'on a pris, ne joue pas et pourquoi ils mettent un jeune ça, pourquoi on a pris cet Australien, quoi, en fait.
Exactement. Alors, une autre question. Bon, pour toi, Olivier. Est-ce que tu gardes des contacts avec tes anciens coéquipiers? Est-ce qu'ils viennent? Est-ce que tu les reçois? Est-ce qu'ils viennent ici à Sauverpien?
Pas oui, du tout. Oui, des fois, maintenant, avec l'équipe que j'avais à Wakefield et à Castleford, maintenant ils sont un peu partis dans tous les clubs. Donc, à chaque fois qu'il y a une équipe qui vient, j'en connais un ou deux dans le groupe, quoi. Donc, on s'appelle avant.
Korkidas qui joue à Wakefield maintenant, qui a évolué un peu à Huddersfield, on est très bien, on est très très bons copains. Et bon, mais sa femme est venue à la maison, elle connaît très bien la mienne, donc des fois ça se passe comme ça, elle vient de passer des vacances, elle les suit. Et puis bon, mais après ça se passe bien. Ça c'est pour les joueurs avec qui je garde des contacts assez bon quoi. Et puis bon, bah, c'est parce que bon, on va pas garder contact avec tous les joueurs qu'on a connus parce que sinon ça ferait long, mais bon, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Solomona aussi qui joue à Bradford, qui joue à Warrington maintenant, un très bon copain. On s'appelle souvent par les moyens des médias, des sites Facebook et des choses ouais. comme ça, Messenger, on peut se parler pratiquement ouais. tous les jours, je garde beaucoup de contacts avec eux.
Et est-ce que tu n'es pas un forumiste qui pose la question à Jamel s'il garde contact avec un certain Foufou Moï Moï, non ? Ce serait intéressant de savoir, de savoir le pilier kiwi que tu as affronté avec l'équipe de France.
Il n'y a mais pas de question.
Est-ce que tu as les cartes postales ?
Tu veux savoir quoi de Sony, à la fin du match, j'ai échangé son débardeur contre un t-shirt à moi. Et bien, que je date chez moi et que je leur dis. Quand ils voient le dessin, je veux dire, la marque est New Zealand, ils me disent, mais il y a qui ? Je dis, ben, à Moï Moï.
À Moï Moï. Non, Jamel, voilà, une autre question. Alors, bah, c'est là, on te demande si tu ne regrettes pas certains choix de carrière, comme un passage à 15, il faut le dire, où tu aurais pu devenir un Chabal Buis. Bon, j'aime pas trop le Chabal Buis. Voilà, on te pose cette question. Sur un choix de carrière à 15. On te l'a proposé d'abord.
Je dis, bon, ma carrière, elle n'est pas finie encore. Donc,
Oula, la porte est ouverte là.
Non, franchement, non, je ne regrette pas parce que je veux dire. Quand j'ai eu vraiment la proposition, je veux dire, pour passer à 15 et la Super League, donc j'ai pas hésité du tout à signer un contrat, je veux dire, avec les Dragons, parce qu'au moins, comme disait Olivier, je veux dire, c'était le rêve, je veux dire, de moi à Vinève de jouer en Super League, mais pas envie d'aller en Angleterre. Donc, je veux dire, le rêve d'avoir une équipe Super League en France.
On en avait parlé une fois à Vinève, ton père,
il y a longtemps. Parce que lui il était parti déjà en Angleterre et je lui demandais si c'est bien, comment se passe sa vie là-bas. Donc non, pour l'instant je n'arrête pas, mais après je veux dire ma carrière n'est pas finie, donc on verra.
Mais non, mais ce sont nos Jean Gallia, René, attends. C'est cette équipe-là qui aura fait décoller le 13 en France, dans l'Europe entière, et vous voulez les envoyer à 15, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Toucher 3 ballons par match, ils vont s'ennuyer ces garçons. Attends.
Je pense que Jaja c'est NRL l'année prochaine, il a eu des contacts avec pas mal de clubs, donc
je préfère qu'ils aillent à NRL qu'à 15, franchement. Hein.
Jaja, tu réponds ?
Non, je sais pas.
Bon, et une
fou intox.
Une question pour tous les deux, parce que tout le monde l'attend. Et cette recrue là, ce joker médical, vous avez entendu parler ?
Un joker, tu dis ? Non. Enfin, on l'attend encore si. Non. Il n'y a pas eu de. C'est vrai qu'à l'époque où on est, il y a beaucoup de joueurs qui sont. Ils sont tous sous contrat, quoi. C'est en NRL ou en Angleterre. Tous les joueurs sont sous contrat. Est-ce qu'il faut prendre un joueur pour prendre un joueur, ou est-ce qu'il faut attendre peut-être un peu plus pour avoir de la qualité? Parce que bon, c'est vrai que.
Sean Perry, non, peut-être? Oui. Sean Perry de retour?
Sean
Perry, votre ancien coéquipier?
Non, je vois pas.
Non.
Il a tellement marqué Olivier qu'il s'en rappelle lui, un peu.
Non, c'est un très bon copain. C'est un très bon copain. Mais bon, c'est vrai, il faut pas prendre un joueur pour prendre un joueur. Après, c'est vrai que bon, mais nous, on a perdu déjà beaucoup de joueurs par blessure. Il y a Mog qui s'est en allé, Greenshield qui est blessé. Et en retour, on a pris personne, quoi. Donc c'est vrai que. Bon, mais. Ça pose un gros problème. Il faut trouver le bon joueur qu'on peut prendre maintenant, qui est libre, quoi, ou qui veut venir et qui peut casser son contrat. Et c'est très dur en ce moment, quoi.
Peut-être Gasnier, fin avril, il est libre.
Alors ça, il faut demander à Bernard Gouache, je ne sais pas du tout. Il y aurait des questions pour Louis, paraît-il. Oui, alors, tu en as aussi.
Oui, il y a une question pour Louis. Attends, je vais la retrouver. Alors. On va parler un peu de la fédération, hein, ça va nous changer un petit peu. Voilà. La question est de Dragonette, c'est un petit dragon celui-là. Pourquoi les relations entre la fédération A13 et la fédération des sports universitaires sont-elles rompues? Comptez-vous y remédier?
Nous, c'est pas une question de ma responsabilité, mais le secrétaire, il y a... La Forgue est là, bon, mais en fait, c'est quand même regrettable que une fédération, les deux fédérations n'aient pas des relations conventionnelles comme ces fédérations, toutes les fédérations doivent en avoir. Bon, ça, je le regrette, je n'en connais pas les raisons profondes, mais bon, je souhaite qu'une chose, que ce dialogue reprenne, parce que c'est quand même quelque chose d'important. Par contre, dans le Languedoc-Roussillon, nous sommes, depuis qu'il y a cette problématique nationale, nous sommes la seule académie où il existe encore des équipes qui jouent au rugby à 13, envers et contre tous. Donc, mais par contre, là, les équipes sont là, mais c'est le terrain qu'on n'a plus, donc voilà. Mais j'espère que on va y arriver. Donc il faut souhaiter que les relations reprennent, parce que tout simplement c'est une affaire d'intérêt public et d'intérêt général pour les deux fédérations. Le sport universitaire sans le rugby à 13, ben il leur manque quelque chose, et le rugby à 13 sans les universitaires, il leur manque aussi quelque chose.
Il a fort que pourrait répondre. Ouais,
disons que je vais apporter un petit point. C'est une question qui est revenue donc à nos différents bureaux exécutifs. Hein, sur la question universitaire, il faut savoir que c'est vrai que donc il y avait une tournée qui avait eu lieu en Australie. Cette tournée-là, bon, les universitaires l'ont faite, mais bon, au départ, dont la fédération universitaire devait donc financer aussi cette tournée, comme ils font pour le rugby à 15, et donc ils ne l'ont pas fait. Donc, on a quand même envoyé les jeunes là-bas en Australie, et puis on a essayé de reprendre le dialogue. Alors maintenant, bon, là, ce sujet, je ne pourrais pas trop répondre parce que c'est le président Nicolas Lara qui doit s'occuper, qui s'est occupé. Je ne sais pas s'ils se sont rencontrés avec le président universitaire, donc pour parler de tous ces problèmes. Mais il faut savoir, c'est vrai que le rugby à 13, même à l'université, il passe vraiment au second plan, et c'est notamment, comme a dit Louis, quand il faut trouver des terrains, c'est d'abord le 15, et puis quand il faut faire un championnat, c'est d'abord le 15 qui passe en priorité, et puis après, s'il reste de la place, c'est pour le rugby à 13. Donc évidemment, il faut, je pense, renégocier. Je crois que c'est au président de la fédération, Nicolas Lara, de faire. Et donc je pense qu'on en saura bientôt, on saura quelque chose bientôt.
Bon Guy, puisque tu as le micro, ne le lâche pas, hein, parce que puisqu'Hervé s'est déballonné, hein, bon, mais toi tu es là. Hein. Eh oui, c'est vrai, ce soir il se repose. Alors, comment se fait-il? Alors ça, c'est une question de passionné 13. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas de CTR présent en Île-de-France? Ça, évidemment, ça trouble un peu tout le monde. Hein.
Ouais, le souci qu'il y a avec l'Île-de-France, c'est que malheureusement, il n'y a pas grand monde qui s'occupe des équipes là-bas. Et en plus de ça, quand je dis pas grand monde, c'est au niveau dirigeant. Et en plus de ça, donc la ligue et les comités là-bas s'opposent. Et quand la fédération a essayé d'envoyer quelqu'un sur Paris, c'est vrai que Paris c'est énorme, mais cette personne-là, ça n'est jamais tiré, quoi. Donc moi, mon point de vue, puisque moi avec Laurent Roldos, on s'occupe maintenant du développement des jeunes, c'est-à-dire de puisque la fédération, il faut savoir, a pris des agents territoriaux de développement, c'est-à-dire qu'il y a eu 14-15 personnes qui ont été engagées au niveau des ligues et des comités pour développer justement le rugby à 13 dans les collèges, les lycées, les écoles primaires. Et donc, avec Laurent Roldos, j'étais monté sur Paris donc à voir la ligue et les comités. Et quand on voit l'organisation qu'il y a là-bas, bon, on comprend pourquoi il n'y a pas trop de rugby à 13 au niveau des jeunes là-bas.
Je pense que demain, ils vont te répondre.
Il faut essayer. Oui, oui.
Parisiens, demain, sur le forum, ils vont te répondre. Ouais, hein, parce qu'ils ont l'impression d'être laissés pour compte. Hein.
En plus, moi, je me suis occupé, donc là, je m'occupe du développement avec Laurent Roldos, mais je me suis occupé pendant 4 ans la DN1, Division Nationale 1, et l'Élite 2. Et donc là, il y avait Corbeil et il y avait... le club de... Je sais pas le...
Vas-y.
Je répondais donc... voilà, à Monsieur Osmond. Donc, Monsieur Osmond, je lui ai souvent dit, puisque c'était un qui s'occupait de la ligue, du comité là-bas, de former une école de rugby, de former des jeunes. Et il m'a dit que, vous savez, avec les déplacements qu'il y a là-bas, c'est difficile, etc., etc. Donc, à partir de là, bon, c'est vrai que si les gens, ils veulent pas faire un effort eux-mêmes déjà, puisqu'ils sont sur Paris, d'essayer de faire quelque chose eux-mêmes,
je vois pas comment la fédération d'une baguette magique pourrait créer des écoles de rugby là-bas. Donc il faut aussi les gens se jettent un peu à l'eau.
Guy, demain je suis sûr que tu as une lettre recommandée. Je te le dis tout de suite. Hein. Bon, une question à Louis. Hein. Allez, la dernière question à Louis. J'en ai plein de questions ce soir. Et ils ont été bavards. Écoute, alors. Ouais, alors, Louis, quels sont les axes de la politique de développement de la Ligue? Et puis j'avais une autre question, que je ne retrouve pas, bien entendu. Voilà, exactement. Bon. Ah oui, est-ce qu'il y a eu cette saison de nouveaux clubs affiliés?
Oui, chaque saison, nous avons des clubs, des équipes nouvelles qui se créent. Et je le sais parfaitement, puisque dans la Ligue Languedoc-Roussillon, chaque équipe nouvelle qui se crée ou chaque club, la Ligue offre un jeu de maillot à l'équipe qui démarre. Donc nous avons la comptabilité très précise de ce qui se crée, puisque cette année, nous avons distribué 6 ou 7 jeux de maillot. Donc ça veut dire qu'il y a 6 ou 7 équipes, toute nature confondue. Ça peut être des juniors, des écoles de rugby. Bon, voilà. Donc parmi les équipes nouvelles, nous avons Villeneuve-Minervois par exemple. Aujourd'hui, vous avez votre collègue, l'ancien dragon Adel Felous, qui va prendre sa retraite sportive et qui va immédiatement devenir président du nouveau club de Narbonne 13 et qui va spontanément créer en septembre, démarrer une équipe dont j'étais avec lui aujourd'hui pour ça. Donc voilà, ça c'est du concret. Donc voilà, le comité des Pyrénées Orientales et Côte Rocheuse, tout ne réussit pas forcément. Il y a eu pour la première fois dans l'histoire le trophée du comité de l'Hérault qui s'est joué dimanche entre Béziers et Montpellier au stade Sabaté. Donc il y a un titre de champion de l'Hérault. Donc moi je pense que le projet de la Ligue existe. Il ne faut pas oublier qu'une ligue, c'est différent d'un comité qui a un territoire très limité, qui est un département. Une ligue comme la Languedoc-Roussillon, nous avons 5 départements, ça va de la Lozère jusqu'au Gard, et il ne faut pas oublier un développement harmonieux sur le territoire. Le territoire, pour moi, du rugby à 13 du Languedoc-Roussillon, c'est la région Languedoc-Roussillon, c'est pas l'Aude et les Pyrénées-Orientales. Donc, vu d'ici, Nîmes ou Montpellier, ça paraît un peu loin, mais c'est aussi notre terre de notre région de rugby à 13, et le comité de l'Hérault est en train de travailler. Bon, la finale à Montpellier va certainement apporter quelque chose, mais comme le dit Guy, il y en a quelques-uns aussi, il faut quand même qu'ils se mettent au travail sérieusement, et ne pas s'enfermer dans des guerres stériles qui par exemple sont aujourd'hui en train d'agiter le rugby à 13 sur Montpellier. Je parle de la région, je ne parle pas des autres. Bon, donc moi je souhaite tout simplement que ça s'apaise et que ça se mette vraiment au travail pour déboucher sur des matchs, parce que le seul critère d'évaluation d'un sport, c'est le nombre de matchs qui se jouent, le nombre de licences enregistrées, d'arbitres, etc., etc. Ça c'est la vie, c'est pas des discours.
Chers amis, il nous reste un petit quart d'heure encore, à moins qu'une dernière question, je sais pas, René ou...
Non, juste qu'on peut écouter l'émission sur Rugby Forum 13 et sur Contact FM tous les vendredis à 18h et rediff le samedi à midi. Et dès demain matin, ce sera évidemment en ligne sur la 13e heure sur le net.
Voilà, il est bon de le rappeler, donc faites-le savoir, écoutez-le, faites-le savoir. Donc un petit quart d'heure encore en compagnie d'Olivier Lima et de Jamel Fakir. Samedi, les gars, c'est du lourd, c'est de l'épée, c'est du solide. Hein, c'est Bradford qui arrive à Aimé Giral. Qu'est-ce qu'il faudra faire pour gagner? Mais encore, ouais, voilà. Seront-ils sur le terrain? Non, ils ne le seront pas visiblement, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner Bradford samedi?
Moi, non, déjà, j'y serai pas sur le terrain, et Jaja non plus, je pense, pour une semaine. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner? Déjà, il faut un facteur, il faut l'enthousiasme, quoi, déjà. L'enthousiasme de la deuxième mi-temps contre Leeds. Si on a déjà rien que ça, ça fait déjà beaucoup de boulot, quoi. Après, il faut l'application dans les gestes techniques, dans les schémas et toutes ces choses-là. Mais la moitié, c'est l'enthousiasme, quoi. Si on a le même enthousiasme quand on est rentré en deuxième mi-temps contre Leeds, ça fera déjà beaucoup de choses.
Sachant qu'ils ont un jeu un peu plus, allez, je dirais bien le mot de rustique, mais disons un peu plus simpliste que Leeds, est-ce qu'il y a une option de jeu à prendre justement pour les contourner, ou vous n'avez pas carrément changé le système de jeu, Jamel, selon toi?
Non, par rapport à la vidéo de tout à l'heure, donc qu'on a assisté nous avec les joueurs, le système de jeu sera identique, je veux dire, à Leeds, mais après c'est vrai qu'ils ont, je veux dire, ils ont pas les joueurs clés comme les joueurs de Leeds, que ce soit Maguire ou Burrow, donc
Après, c'est vrai que ce week-end l'équipe va encore changer parce que, je veux dire, en positif, parce qu'il y aura des joueurs qui vont rentrer, comme Walker, peut-être Raguin, et Jean-Philippe Bell aussi. Donc, voilà, ça va encore changer. J'espère que ça va pas trop un peu les frustrer les joueurs avec les joueurs qui n'ont pas joué pendant un petit moment. Donc voilà, comme l'a dit Olivier, s'ils font la deuxième mi-temps de Leeds, mais on le sait qu'on est capable et qu'on est capable de faire mieux que ça. Donc voilà, ce serait bien de prendre ces deux points à la maison.
Par contre, attention, hein, faut pas s'endormir sur les lauriers parce qu'au niveau de Bradford, ils ont l'ancienne colonie de Manly, hein, Lestrange au talon, Matt Orford à la mêlée. Il y a du lourd. Il y a Mendes, troisième ligne. Il va arriver du lourd, vraiment. Oui, il y a de gros pilars, ouais, qui vont passer les bras, style un peu comme ce que nous a fait Leeds, voilà, en première Andy mi-temps, Lynch. Andy Lynch. À noter qu'au niveau de 20 minutes contre Leeds, il y avait demi-heure de jeu, il y avait 20 offload à zéro au niveau de Leeds, face aux Dragons. Il faudrait pas que ça se répète contre Bradford, donc vraiment attentif aux premières minutes du match.
Moi, j'ai une question. Est-ce qu'il y aura des changements à la charnière ou?
C'est encore en cours. Pour l'instant, je pense que Thomas bien sûr restera et je pense qu'il se demande avec la rentrée de Sarr qui va jouer à droite quoi. Donc je pense que McGuire va peut-être revenir pour un peu plus de stabilité du côté droit et que Ken Bentley qui a été encore très bon à son habitude en talonneur va peut-être débuter le match quoi. Mais bon, on ne sait pas encore exactement puisqu'il y a des blessés, on attend encore des réponses, donc pour l'instant ça en est là.
Monsieur Forge.
Non, moi il sera nécessaire d'envoyer beaucoup plus de jeux que ce qu'on fait jusqu'à présent quand même, hein. Parce que bon, à deuxième mi-temps la dernière fois ça a été très bien, hein. On était content, mais si on était resté sur la première mi-temps la semaine dernière, là c'était catastrophique.
C'est du passé, là.
Bon, c'est du passé, espérons. Mais il faudra envoyer du jeu puisqu'on aura des joueurs pour quand même là pour jouer derrière avec un Walker. Walker va rentrer, ça va rentrer. Là, on peut quand même faire un peu de jeu, un peu plus de jeu que ce qu'on fait.
Moi, je pense que c'est contre Leeds, il y a eu 20 mauvaises minutes, mais c'était dans l'axe, quoi. Donc, c'est-à-dire que bon. Les joueurs le savent très bien, hein, il faut ralentir un peu le tenu. Quand je dis ralentir, c'est vraiment plaquer pour que le gars il se relève le moins
Le travailler au sol.
Donc, il faut les travailler au sol et c'est là où on n'a pas été bon pendant 20 minutes. Et là, ils font mal parce que chaque fois, les Dragons avaient le dos tourné et ils arrivaient dans l'axe du tenu et là, ça fait très mal. Voilà, donc là il faut travailler là-dessus parce que Bradford avec un gars comme Lynch qui passait les ballons à pratiquement tous les coups contre Leeds, en tout cas je l'ai vu passer sur 10 ballons, 8 ballons, donc il faudra être fort là-dessus. Bon, après je crois que bon, pour l'équipe je pense que bon, Thomas avec Maguire et Kane, à mon avis il faut le garder au talon et après rester avec Maguire et Thomas puisqu'ils ont l'habitude sur le premier match et puis voir après ça l'utiliser au centre mais avec des ballons quoi.
Et la question pour Jaja, le paramètre important pour samedi, la fatigue. Ça a vraiment été axé sur la récupération, Jaja, cette semaine. Ça a été vraiment, vraiment récupéré de tous ces efforts fournis depuis Huddersfield.
Ben, ça a été, je veux dire, comme une semaine normale, à part hier où ils ont été tous été en repos. Demain aussi encore en repos. Donc ça va être dur parce que c'est le troisième match en 10 jours à peine. Donc, mais après, je veux dire, on sait très bien que après ce match-là, on aura encore, on aura 2 jours de repos lundi, mardi, où on pourra se reposer. Donc, on peut se permettre de faire un dernier match et tout ça. Donc, mais après, je veux dire, comme a dit Guy, ouais, ce matin, on en a parlé. Je veux dire, à 8 heures pétantes, je veux dire devant les coachs et avec tous les joueurs. Je veux dire, par rapport à la défense sur les 20 minutes qui a été. On n'était pas du tout ici, donc on a mis un système, je veux dire, avec tous les joueurs qu'il faut, je veux dire, travailler plus au sol. Si on le fait pas à partir de samedi ou quoi que ce soit, donc il y aura, je veux dire, des heures à faire en plus pour venir travailler au niveau du ressol et du travail au sol. Donc on en est conscient, les coachs aussi nous ont rabâchés, je veux dire, aujourd'hui avec ça, donc voilà, donc on va essayer de faire mieux que ça.
Pour rebondir sur ce que dit Jaja, Olivier, pour toi, est-ce que la base de la défense, le départ, c'est le travail du joueur au sol, de le mettre sur le dos, la fameuse tortue comme on appelle, c'est, est-ce que pour vous c'est le départ? Que de laisser un joueur sur les genoux, on sait qu'automatiquement derrière ça va aller à 2000 à l'heure et c'est trop tard.
C'est la base.
Oui, enfin c'est, après c'est ça va toujours en cercle quoi. C'est, il faut une montée rapide avec une ligne qui soit homogène et qui soit bien droite quoi. Et avec l'envie, il faut qu'il y ait un bon contact, il faut qu'il y ait une bonne technique de mise au sol déjà. Parce que souvent on se retrouve avec des types qui restent debout, personne ne prend en jambe et que l'arbitre, une fois contre Leeds, il dit tenu, on l'entend pas, on le met en touche et bon, mais les gens disent mais pourquoi ? Bon, mais il avait dit tenu, mais s'il y avait une bonne technique dès le départ, qu'on l'avait mis au sol, ça aurait été plus vite quoi. Et après, c'est sûr qu'il faut parler quand on est au sol. C'est des choses qu'on travaille dans la salle de lutte, on travaille ça assez souvent. Mais bon, c'est vrai que la technique, des fois, elle revient pas tout le temps. Et après, un tenu qui est rapidement joué, un manque de communication, quelqu'un qui parle pas, qui dit qu'il a le contrôle du type qui est par terre, ça fait qu'il remonte vite. Les gens reviennent, ils sont dos tournés à la défense. Et comme ça c'est arrivé plusieurs fois avec Leeds, ils arrivent et nous, on n'a pas le temps de monter, on subit. Alors que bon, souvent on a vu que nous, quand on attaquait, ils étaient déjà prêts, ils montaient. Et bon, mais c'est une grosse différence, quoi. Donc il y a dans la défense, il y a c'est un cercle et il y a plusieurs tâches et il faut les faire toutes très bien, quoi. Et bon, mais quand on met l'enthousiasme, souvent toutes ces tâches sont remplies.
Je vais revenir juste un peu sur l'équipe de samedi prochain, puisque Olivier a donné un peu quelques noms. Par contre, si ça rentre, je pense franchement qu'il vaut mieux qu'il rentre au centre, parce que j'ai vu le centre de Bradford, Nero, et c'est quand même, ça a l'air d'être un super client, et c'est quelqu'un qui rentre dans la ligne. Et donc, je pense que s'il a un gars comme ça en face, ça peut être bon pour les Dragons, parce que contre Leeds, franchement, il a été super fort ce Nero. Donc, ouais.
Voilà. Et Chris Nero, je crois qu'il jouait deuxième ligne aussi à un moment, ouais. Et à Huddersfield.
En tout cas, moi, je l'ai trouvé très fort.
Et c'est parce qu'il a ses bonnes lignes.
Dans les intervalles, il est super fort.
Comme il a ses bonnes lignes, il rentre très bien. Et bon, mais au centre, en plus, il a un bon gabarit. Donc, ça fait que. Mais sur ça, il va peut-être évoluer aussi en deuxième ligne. Deuxième petite info. Peut-être en deuxième ligne aussi, parce qu'il avait déjà joué un peu en deuxième ligne. C'est encore une autre facette du joueur. Mais bon, c'est une facette qu'on ne connaît pas. Et bon, mais on le lance là-dedans. On va voir comment ça va se passer.
Juste une question. On parlait de la défense, là. Moi, je voulais vous demander, est-ce que vous travaillez la montée en défense sur le tenu ? Parce que je trouve que les équipes anglaises, dès que vous avez talonné, ils sont déjà sur vous. Et nous, on est toujours en retard. Est-ce que vous le travaillez aussi pour monter rapidement, ou c'est une question que l'arbitre recule trop ou pas assez pour les uns ou les autres ?
Peut-être qu'il faut regarder la question d'une autre manière. C'est est-ce qu'on les tient assez longtemps au sol pour pouvoir monter plus vite ? Parce que souvent, quand on monte pas, c'est qu'on revient juste. Et que quand ils jouent vite, on n'a pas trop le temps de monter. Et souvent, les gens, ils nous disent, mais c'est vrai, c'est bizarre, les Anglais sont sur nous de suite. Et nous, on a l'impression qu'on monte pas. Mais souvent, c'est la cause, c'est qu'on les tient pas assez au sol. La technique est pas assez bonne. Et que à peine on est revenu, qu'ils sont déjà sur nous. Donc c'est sûr qu'on peut pas monter dans ce cas-là, quoi.
Sur ces derniers matchs aussi, quand vous les maintenez au sol sur quelques matchs, vous étiez pénalisé souvent, beaucoup plus que les Anglais. Là, peut-être aussi, il y a un vice de forme,
On ne va pas revenir là-dessus. Vous savez pourquoi les Dragons sont mieux arbitrés en ce moment ? Parce qu'on est 11e, on a 4 points, on est loin des playoffs. Bon, l'arbitre dit on va être un peu plus gentil. Vous verrez que le jour qu'on va se rapprocher de la 8e place qualificative, vous allez voir comme ils vont nous soigner, n'est-ce pas, monsieur Bonnery, même si vous n'êtes pas souvent d'accord avec moi sur l'arbitrage.
Non, je ne suis toujours pas d'accord sur la manière dont est abordé le problème de l'arbitrage. Moi, je pense qu'il faut discuter, et je suis tout à fait d'accord avec tout le monde, il faut discuter de l'arbitrage en tant que tel. Comment un arbitre est-il formé ? Comment il est désigné ? Comment on peut discuter avec lui ? Comment il peut expliquer à un moment donné ses décisions ? Ça, je pense que ce serait un travail positif pour tout le monde, parce qu'il n'y a pas que, les Dragons qui ont des problèmes, les autres équipes en ont. Le championnat, la semaine dernière, il y a eu des incidents ici à cause d'un arbitre. Bon, l'histoire du sport est faite de problèmes avec l'arbitre. Par contre, on ne discute jamais de problèmes d'arbitrage. Moi, voilà, ça c'est mon point de vue. Donc,
Monsieur Bonnery.
Par contre, j'avais une question, moi, qui me préoccupe. qui me préoccupe pour le match de samedi. Et je pense que c'est pour moi la clé de cette rencontre. Est-ce que vous avez senti, vous joueurs, l'enthousiasme qui a été celui de la deuxième mi-temps? Et est-ce que vous pensez que cette équipe est dans le même état d'esprit qu'elle a fini le match l'autre, même si c'est avec une défaite? Est-ce que vous pensez que cette communion que vous avez réussi à créer, qui n'avait pas existé depuis longtemps avec le public, vous pensez que vous êtes capable de recommencer ça? Et je pense que si vous recommencez ça, ben vous gagnerez le match et le public partira satisfait. Voilà. Est-ce que vous l'avez senti ça?
Senti après le match et pendant le match, oui, je vais te répondre oui. Après, au jour de maintenant, je veux dire, moi et Olivier, je veux dire, les blessés ne s'entraînent pas avec les joueurs. Donc nous, on a des horaires, je veux dire, complètement différents pour venir s'entraîner avec eux. On était avec eux, je veux dire, à la vidéo, donc à part regarder la vidéo et écouter les trucs, je peux pas te répondre, mais je pense que oui. Après, sur le terrain, je veux dire, travailler ensemble, on n'y est pas. Donc après,
c'est assez terrible pour un joueur professionnel d'être blessé, d'être mis comme ça à l'écart. On ne s'en rend pas compte, nous, de l'extérieur.
Mais c'est horrible d'être blessé. Je veux dire, tu vois plus personne.
C'est pour ça que vous êtes là ce soir, parce que peut-être vous aurez joué samedi, ça aurait été peut-être plus difficile.
Non,
ça aurait
pu être possible. Pourquoi on fait des stages de groupe pour que tout le monde vive ensemble, et d'un autre côté, quand le groupe s'entraîne, il y en a qui n'ont pas le droit d'aller voir les autres? Ça me paraît un peu paradoxal.
Ouais, après c'est pas pareil dans tous les clubs. Là, ils préfèrent nous faire venir les blessés. Enfin, c'est le préparateur physique. Là, nous, si on est blessé, on doit venir le plus souvent à 7h du matin pour voir le kiné et puis ensuite s'entraîner. Donc souvent à 8h30, 9h du matin, nous, notre journée est finie, alors que bon, le groupe il commence à faire leurs entraînements. Donc ça fait que de suite on passe pas trop de temps avec l'équipe. Donc c'est vrai que pour les joueurs qui sont blessés de longue durée, comme Thomas Bosque au début, Clint Greenshield qui est un peu au fond du sol en ce moment parce qu'il voit pas trop les joueurs, et puis bon, mais de pas jouer, ça doit l'embêter un peu. Ça fait beaucoup râler, quoi. Mais bon, il y a d'autres clubs qui font autrement, et qui, par exemple, moi quand j'étais à Wakefield, c'était pendant que l'équipe s'entraînait, et bien, les joueurs blessés, eux, ils pouvaient aller voir le kiné en ce moment-là. Donc ça fait qu'il y avait toujours une tous les joueurs se croisaient tout le temps, et puis bon, mais il y avait peut-être moins de casse, on se croisait, quoi, tous entre les joueurs, et puis bon, mais des fois ça fait que c'est un peu différent, quoi. Mais c'est vrai que le point de Louis, c'est vrai qu'on fait, on essaye de faire une communion tous entre les joueurs, et puis bon, mais là, dès qu'on est blessé, c'est vrai que les joueurs qui sont pas souvent blessés ou qui sont blessés, la première chose qu'ils disent, c'est que la première semaine, mais on le voit plus, quoi, on les voit plus, ces types, on les a oubliés, et presque quand ils reviennent de blessure, on dit oh, t'étais où, ça fait un moment que t'étais parti. Non, c'est vrai, parce qu'on les voit plus. Les joueurs à 8h, enfin moi en ce moment je suis blessé, donc je le sais aussi, à 8h du matin, des fois j'ai fini la journée. C'est pas qu'on fait rien, c'est qu'on le fait, mais très tôt, quoi. Donc,
et en plus, c'est super chiant, je veux dire, pour le joueur blessé, parce qu'il s'entraîne tous les jours, lui. Je veux dire, demain c'est le jour de repos, ben non, les blessés viennent à 8h parce qu'ils s'entraînent. Ouais, ils ont pas de jour de repos. Donc j'ai Drinchin, je l'ai vu là tout à l'heure, parce que je me suis entraîné avec lui. Il en a marre, il tarde d'enlever ce plâtre et de reprendre, parce que voilà, ça lui prend la tête de s'entraîner, je veux dire, il voit plus les autres. C'est chiant.
Le préparateur est spécial quand même. C'est un petit général quand même.
Donc, il est à la trace, il est à côté de toi et il bouge pas.
Alors, juste pour finir avec Louis tout à l'heure au niveau de l'arbitrage, parce que celle-là, il faut la raconter quand même. Ça m'a choqué personnellement. Oui. Bentaleur arrive au stade, monsieur Bentaleur avec ses assistants. Ouais. Il passe devant monsieur Gouache, président, qui discutait avec monsieur Lévy. L'arbitre de touche, il vient saluer monsieur notre président, il salue l'arbitre, il appelle monsieur Taller, il lui court après, il lui tape sur l'épaule, lui dit, il y a le président là, tu l'as pas vu. Taller, d'un air dédaigneux, il dit, bon, lui, j'ai pas le temps, ou je vais au vestiaire, il lui a fini, je vais au vestiaire. Déjà, pour moi, ça reste irrespectueux, surtout quand une personne vient vous chercher et vous montre le président du doigt en lui disant, tu l'as oublié, tu l'as pas vu, tu vas le saluer, ça coûte rien. Et deuxième chose, moi, ce qui me choque, quand je vois à la caméra, c'était Orange qui filmait, à 10 minutes du coup d'envoi, Bentaleur, grand sourire, avec l'entraîneur de Hull dans les vestiaires en train de rigoler. Qu'est-ce qu'il fout 10 minutes dans les vestiaires de Hull en train de rigoler avec Justin Morgan? Il a rien à y faire dans les vestiaires, il vient pas, je me suis renseigné, il vient pas dans les vestiaires.
On a vu pire que ça, nous. Rappelle-toi, Louis, l'an dernier, oui, c'est vrai. Ça c'est quand même assez extraordinaire, personne autour de la table n'y était. On animait donc la 13e heure, c'est podcast, la 3e ou
la première émission. Au Café de la Poste.
Au Café de la Poste. Le bus, donc c'était la veille d'un Bradford, Dragon Bradford.
On était au Café de la Poste, tout à fait.
Voilà. Et ce soir-là, donc, on voit arriver un bus, on voit descendre les joueurs de Bradford au fur et à mesure, puis en dernier lieu, l'arbitre de la rencontre. Le jour de Dragon Bradford.
C'est véridique.
Ça, c'est quand même assez extraordinaire. Donc, on n'en est plus là, je crois. On n'en est plus là.
Bon, alors pour.
Et Dragon avait gagné, effectivement.
Non, pour venir,
mais malgré
pour
quelques décisions arbitrales, arbitraires.
Sur les problèmes d'arbitrage, sachez quand même que ça préoccupe tout le monde. Il faut pas, je pense qu'il ne faut pas. C'est pas parce qu'on n'en parle pas tous de la même façon qu'on n'est pas préoccupé par l'arbitrage. Je pense qu'il faut quand même être conscient de ça. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas lucide sur un certain nombre de choses. Et à titre d'information, il y a un étudiant français, d'ailleurs, qui est à Cambridge, à Londres, qui est en train de faire une étude purement scientifique sur des problèmes d'arbitrage de la Super League et en particulier la manière dont sont arbitrés les Dragons. Donc il est en train de produire, de visionner des heures et des heures de cassettes et de produire quand même un travail très rigoureux, très universitaire, bon, dont on ne peut pas encore dévoiler tout, mais qui est sur le point de se terminer. Il lui reste encore à formaliser quelques bricoles. Donc c'est Lionel Page que j'ai rencontré la semaine dernière ici à Perpignan, qui est venu très discrètement, qui va voir les Dragons lorsqu'ils jouent en Angleterre et qui se procure les cassettes et qui fait un travail très important sur l'analyse de la manière dont sont arbitrés les Dragons, que ce soit en France, que ce soit en Angleterre, soit des arbitres français, il n'y en a pas beaucoup puisqu'il n'y en a qu'un, c'est soit par des arbitres anglais. Donc, dans quelques temps, nous aurons les résultats de ce travail qui permettra d'alimenter le débat sur l'arbitrage d'une manière un peu différente de celle qu'on a l'habitude de faire.
Ouais, et pour revenir à Lionel, que j'ai rencontré à Perpignan, puisque son père habite sur Perpignan, hein, il m'expliquait bon, que j'ai une première partie de son travail, évidemment c'est un travail universitaire, hein, on a bien compris, c'est des chiffres. Une partie de son travail a déjà été communiquée au président des arbitres, à Cummins, le président des arbitres, donc il a. Hein, et on l'a envoyé aussi au Dragon. Bon, je ne pense pas que vous ayez entendu parler, mais je sais que dans les entraîneurs ont ce machin. Bon, ça va changer, mais on remarque que l'arbitrage est différent. On va pas le faire. Quand Sky est là, quand Sky n'est pas là, quand vous, c'est marrant, quand vous jouez en Angleterre, quand vous jouez en France. Bon, maintenant, on verra bien ce travail, parce qu'on lui a remis à peu près une trentaine de CD, donc il y a eu travail, hein. 32 CD de tous les matchs, on y a foulé tous les matchs des Dragons, donc on verra bien comment ça se passe. Voilà.
Voilà, donc on aura un élément de discussion intéressant.
On n'a plus qu'à espérer maintenant que ça se fasse, et vite, parce que le temps presse là. Bon, messieurs, on arrive au terme de l'émission, il est déjà 9h-20, on a dépassé, je crois d'ailleurs, de 5 minutes l'heure 30 qui nous était impartie. Donc, merci infiniment à tous et merci surtout aux sponsors.
Olivier. Oui, comme on a à notre habitude, nous allons remercier Chantal Margalet, le magasin Camomille, qui nous soutient, l'entreprise C2A de Régis Ribert à Perpignan. Un grand merci à Pascal Fage, le grand ouvreur, il nous a fait des misères au 13 Catalan à l'UTC. Hey, Jean-Jacques, on a pris quelques années, hein, Pierre, hein, tu t'en souviens? Tu étais juste commencé, non? C'était les premières années, donc merci à Pascal de nous avoir reçus ce soir. Et puis Willy Gouache, le bistrot du bœuf à Canet-en-Roussillon. Donc merci encore aux sponsors. Et moi je sais que tu vas le faire, mais je remercie encore Olivier et Jaja d'être venus parce qu'on les aime. C'est des grands frères pour nous et on ira compter sur nous, pas ce samedi parce que vous jouez pas, mais pour vos futures joutes.
Grands frères par la taille, parce qu'ils sont plus jeunes que nous malheureusement. Hein.
Tout à fait.
Moi je voudrais envoyer un bonjour lointain à un supporter que j'ai connu quand j'étais sur l'île de la Réunion, supporter de Villeneuve et de Tonnes, Vidal Martinez, qui écoute l'émission.
Très bien. Et moi je lance aussi un bonjour et un bisou à Laurent Garnier qui est à Brisbane depuis maintenant pratiquement 2 ans, qui nous suit avec assiduité. Voilà. Donc on l'embrasse bien fort. Et donc on remercie Jamel, Olivier, Louis, René et toute la clique. Et à très bientôt pour la 6e émission de la 13e heure. Salut.